Vous écoutez le 28e épisode du balado Réflexion et entrepreneuriat. Mon nom est Nelson Roberge et j'ai conçu cette série de balados pour favoriser la réflexion entrepreneuriale à travers une approche plus humaine. Vous écoutez le 28e épisode du balado Réflexion et entrepreneuriat. Mon nom est Nelson Roberge et j'ai conçu cette série de balados pour favoriser la réflexion entrepreneuriale à travers une approche plus humaine. Si vous êtes un entrepreneur ou vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, je vous invite à vous rendre sur baromag.com pour vous abonner à notre contenu quotidien, de un pour encourager le média, mais aussi pour avoir accès à plusieurs rabais chez des entreprises québécoises. Il est important pour les entreprises de prendre du recul, regarder un peu comment se font les choses et prendre des décisions parfois difficiles sur des nouvelles avenues pour l'entreprise dans l'objectif de la faire croître. C'est ce qu'on appelle habituellement l'innovation. On associe des fois un peu trop l'innovation à la technologie, mais l'innovation, c'est simplement l'action d'introduire de nouvelles choses. Et pour ce faire, vous devez vous préparer à plusieurs aspects. C'est ce qu'on va discuter avec Antoine Bourassa, président fondateur de Bourrasque Innovation, une jeune entreprise qui a vu le jour au tout début de la pandémie et qui accompagne les entrepreneurs dans leurs projets d'innovation en utilisant la méthodologie du design thinking. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag.
Merci de venir au podcast pour parler avec moi d'innovation, donc comment se préparer à accueillir l'innovation au sein de son entreprise. Donc, comme c'est ça que tu fais comme travail, j'imagine que tu as des bons points à nous suggérer. par quoi tu commencerais? Comment tu dirais, comment il faut accueillir l'innovation dans une entreprise?
Il faut vraiment que ça soit, il faut que tu aies cette culture-là de test, puis un peu de pas avoir peur, de vouloir essayer, de vouloir tester rapidement, puis d'être un peu prêt à l'échec, puis de prêt à réagir bien à l'échec. Je crois que ça, c'est vraiment un bon préambule, puis de savoir c'est quoi l'implication que l'innovation amène. C'est pas simplement de sortir des solutions novatrices, c'est aussi de savoir, OK, mais avec qui ces solutions novatrices vont être mises en place, puis qui vont adresser ces solutions novatrices-là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'il faut voir. C'est pas non seulement, puis c'est pas vraiment juste lié non plus à la technologie. Je sais qu'il y a de plus en plus, on en parle, que ce volet technologique-là, mais il y a beaucoup plus large que ça.
L'innovation, ça peut toucher tout, là. Tu peux être innovant dans, on parlait dernièrement de gestion de tes ressources humaines, tu sais. Fait que là, c'est tes processus de comment faire en sorte que tu peux aussi innover dans ta stratégie de marketing, tu peux innover de, tu sais, fait que l'innovation, c'est exactement tout, c'est pas nécessairement la technologie en tant que telle,
là. Exactement, puis je crois que les gens, faut pas non plus que ça soit juste associé à ça, puis je crois que ça, c'est comme une bonne introduction. Par la suite, lorsque tu veux vraiment faire de l'innovation, c'est sûr qu'il faut que tu aies une méthodologie qui va pouvoir supporter ça, parce qu'il faut, c'est pas simplement de se dire, OK, on va faire des périodes d'innovation. Mais il faut qu'il y ait quand même une structure puis une pensée derrière comment vous allez vraiment faire l'innovation, puis ça va être quoi la méthodologie. C'est sûr que nous, on prône le design thinking, qui est une approche qu'on s'est comme un peu aussi appropriée, mais on est comme ouvert aussi à d'autres approches. Je sais qu'il y a plusieurs autres approches de gestion de l'innovation qui sortent, qui y a des recherches toujours là, qui sortent, qui amènent des nouvelles méthodes de gestion de l'innovation, mais c'est important d'en avoir une.
OK, fait que tu dirais, c'est ça. Avant de commencer à t'enligner dans innover en quelque chose, il faut que tu t'assures d'adopter un processus avec lequel tu vas être à l'aise. Donc, il y en a plusieurs. Comment tu peux trouver là, celui qui te fait qui fait chaussure à ton pied?
C'est sûr qu'il y a plusieurs recherches que les compagnies peuvent faire. Je suis pas le seul consultant, la seule boîte de consultants non plus. C'est sûr, nous, comme je t'avais mentionné, je me suis plus orienté vers le design thinking. Mais j'ai eu une conversation avec Romain récemment. J'oublie son nom de famille, là, ici, mais il est en fait en gestion de l'innovation. Je crois qu'il est rendu au doctorat ou au HEC. Puis je lui ai parlé récemment par webinaire, mais pas par webinaire, par vidéoconférence. Puis il me disait, ouais, le design thinking, c'en est une, mais il y en a plusieurs autres aussi. Tu sais, c'est pas la seule. Tu sais, puis même là, ça m'a ouvert aussi l'esprit. Ça veut pas dire que Bourrasque, dans un an, ça va être encore le design thinking qu'on va prôner encore. C'est juste que moi, je l'ai adopté, je l'ai utilisé aussi assez jeune dans ma carrière, puis j'ai fait des recherches aussi parce que je trouve qu'il est simple à utiliser. Tu sais. C'est une belle méthode, puis que nous, on s'est approprié, puis qu'on justement, on a tout découlé un peu les ateliers puis l'offre de service qu'on fait à partir du design thinking.
Pourrais-tu me faire une petite parenthèse sur c'est quoi le design thinking?
Ouais, exactement. C'est là que je voulais m'en aller. En gros, simplement, là, c'est comme un processus de 5 étapes qui a été établi et démocratisé en 1980 par la firme IDEO, qui après ça a été repris. Puis tu sais, ça date pas d'hier non plus. Mais ce qu'on remarque, c'est que le changement, ça prend du temps. Tu sais, puis sur une période, mettons, de l'histoire, ben un 40 ans, c'est pas grand-chose non plus. Puis ici, au Québec, on est encore plus en retard sur tout ce qui est la digitalisation puis les processus. Fait qu'on comprend que, tu sais, tu me parlais, il y a 5 ans, ça commençait à être populaire, design thinking, mais il y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent vraiment à leur plein potentiel, tu sais, je crois. Mm-hmm. Fait que le design thinking, c'est un processus de 5 étapes que, en fait, c'est un processus itératif pour résoudre des problèmes collectivement. Fait que t'as l'empathie au début, qu'on diverge pour venir comprendre c'est qui l'utilisateur, c'est qui les utilisateurs ciblés. Donc, on vient vraiment récolter plein d'informations par des différentes méthodes. Et après ça, on vient à l'étape 2, la définition. On vient définir vraiment l'ensemble des enjeux. On essaye de traduire un peu l'ensemble des apprentissages faits dans la phase empathique en défis précis à relever. Fait qu'on vient vraiment converger pour après ça choisir une piste en fait à la fois pour venir dans l'espace d'idéation. Puis c'est là que en idéation, ben tout le monde un peu contribue à générer des solutions, que ça soit autant les clients, c'est la co-création un peu autant à l'interne qu'avec les clients. Et à la fin, ben on vient dans le prototypage. Donc on prototype un MVP, quelque chose qui se fait assez rapidement, un prototype à basse fidélité pour tester des hypothèses puis raffiner. Donc, c'est vraiment un processus c'est ça, qui se fait assez rapidement. T'sais, c'est pour ça que nous, on offre en fait des cycles de 1 mois maximum. Là. C'est on veut pas non plus étirer trop ça, puis quitte à faire plusieurs cycles parce que c'est comme c'est itératif. On prend vraiment la racine de la définition puis on l'applique.
C'est intéressant. En fait, la base de ce que tu racontes par rapport au design thinking, ça me fait penser à la base du design en général, tu sais, parce que on couvre beaucoup le milieu du design industriel puis du design avec Baron, puis quelque chose qu'on a vu sur le coup, c'était ça, c'est que le design doit c'est pas tout le monde qui l'applique de cette façon-là, mais doit se concentrer sur l'humain, voir comment améliorer des choses, puis tout ça. Puis après ça, comme tu dis, ça, c'est le côté empathique, c'est de voir, OK, qu'est-ce que cette personne vit, comment on peut se mettre à sa place, puis comment on peut faciliter ces choses, puis après ça, y aller avec, justement, comme tu dis, des suppositions, faire des tests, essayer de voir est-ce que ça peut résoudre son problème, est-ce que ça peut le faire, et là, comparer, et là, arriver finalement à une bonne solution. Fait que dans le fond, c'est l'application du design, mais dans le marketing ou dans tout, c'est ça?
C'est exactement ça. Bon. Puis c'est drôle parce que tu m'en parles, parce que justement, avec Rosalie, qui m'aide énormément à développer toute Bourrasque Innovation, en fait, elle a fait une recherche récemment sur l'origine du design même. Puis pour comprendre, OK, ben de où vient vraiment le design thinking? Puis c'est exactement ce que tu me dis, là. C'est d'appliquer exactement cette philosophie du designer dans le quotidien des entreprises, puis de voir que ça peut vraiment être un levier puissant là, pour générer des solutions qui sont nouvelles puis qui peuvent être testées rapidement, tu sais.
Ouais. Donc, là, on a dérivé un peu de la map du podcast, mais c'est quand même super intéressant.
Ben, c'est super, ouais.
La première étape, tu me dirais, méthodologie, à trouver la méthodologie qui vous convient. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire ou par rapport à accueillir une stratégie d'innovation ou de l'innovation dans son entreprise?
Je crois que c'est important aussi d'avoir une vision qui est assez forte, puis d'essayer de oser aussi. C'est important d'oser dans une vision, puis ça va créer ou ça peut créer des impacts que les gens sous-estiment un peu aussi. Puis une vision aussi, ça se traduit, tu sais, je parle de un peu comme vision, mission, valeur, tu sais, vraiment le core de l'entreprise. Quand ça, c'est fort puis c'est assez puissant, ben ça va parler de lui-même, puis que tout va être, pouvoir être aligné vraiment dans cette même direction-là. Fait que déjà d'avoir une vision qui est inspirante puis qui est innovante, ben ça va un peu mener directement un peu à à l'innovation elle-même, puis ça va rassembler un peu les acteurs importants. Puis parlant d'acteurs aussi, ça inclut un peu, ou c'est un autre point aussi, là. Mais c'est vraiment de diversifier les talents, mais d'inclure aussi, d'utiliser le plein potentiel des talents qui sont dans l'entreprise, tu sais. Mm-hmm. Souvent, c'est ça, les gens, ça revient aussi à briser les silos, tu sais. Il faut briser un peu l'ensemble des silos, peu importe la grosseur de la compagnie. Puis on sait que plus que c'est gros, ben plus que c'est compliqué, mais la chance de, quand on est petit, ben on est plus agile, puis faut ouvrir le dialogue, puis pouvoir vraiment s'écouter, puis pouvoir contribuer tous ensemble, tu sais.
Parce que, tu sais, là, avant l'enregistrement, là, je te parlais, là, bon, tu t'es créé, toi, Bourrasque, a vu le jour durant la pandémie, donc c'était le moment le plus propice à des changements. Tout le monde remet en question ce qu'ils ont à faire. Donc, est-ce que tu penses, pour toi, que c'était plus facile, justement, de partir dans la business, parce que les gens étaient déjà plus ouverts à ça?
Ouais, d'un côté oui, mais d'un côté le portefeuille des gens peut-être était un peu plus frileux pour certains. Là, je suis très transparent, tu sais, c'est sûr que quand tu commences, il faut que tu fasses tes preuves. Ouais. Mais il a fallu qu'on les fasse, puis on n'a pas lâché, puis là on récolte vraiment des beaux efforts, puis il y a des beaux partenaires qu'on est en train de développer, puis on lâche pas parce qu'on a une bonne vision qui est inspirante puis qui rallie les gens, genre peu importe. Tu sais, on se fie plus nécessairement juste aux données quantitatives, on se fie vraiment à des témoignages qu'on fait, puis on essaye vraiment d'appliquer l'empathie puis d'essayer d'ouvrir le dialogue. Ça revient peut-être à un autre point qui est très important, ouvrir le dialogue dans tous ses sens, mais surtout avec les clients, tu sais. Surtout quand tu commences, là, il faut que tu aies un dialogue direct avec tes clients potentiels, tes partenaires, les gens dans ton réseau. Faut que tu ouvres le dialogue puis tu dises que tu as la bonne nouvelle, puis que faut que tu crées des contacts vraiment rapidement.
Ça fait penser, puis je vais faire un point pour ceux-là qui nous écoutent, mais deux podcasts passés, on a fait un podcast avec Nathalie Sin qui parlait de justement comment écouter le client. Et là, elle donne des bons tips sur justement comment on doit être quand on écoute le client, quand on est en train d'écouter ses problèmes, puis s'assurer de prendre du meilleur là-dedans. Donc, j'invite tout le monde à aller écouter ce podcast.
Ben oui, absolument.
Puis sinon, donc c'est ça. Donc, et être en mode d'ouverture. Tu sais, j'en parlais. Je voulais vraiment amener ce côté-là aussi, mais quand on s'en va dans l'innovation, il faut pas s'attendre à tout ce que passe comme prévu non plus, ou que il faut s'attendre à ce que ça marche pas la fois que tu pensais ne va pas fonctionner, et il faut que c'est continuel. Comment tu pourrais m'expliquer ça un peu?
Oh mon Dieu, ben ça, je te dirais que c'est quasiment le core de mon quotidien. Honnêtement, là, c'est ça l'affaire. Il faut que tu sois capable de gérer l'incertitude, mais à son maximum, puis d'être humble là-dedans, puis de toujours avancer, puis de toujours essayer de faire ton meilleur à chaque jour, tu sais. Mais il faut vraiment pas que tu aies peur de tester. Tu sais, avec tous les clients que j'ai, là, c'est ça que j'essaie de dire. Au fur et à mesure des ateliers, je donne des recommandations. Ah, vous pourriez faire des posts là-dessus. Vous pourriez développer des stratégies là-dessus. Vous pourriez essayer rapidement, tu sais. Les gens ont peur, on dirait, ils ont trop de barrières mentales qui les limitent, mais comme l'innovation, si tu veux innover, puis si tu veux créer des affaires qui sont nouvelles, mais il faut que tu sortes de la boîte, puis il faut que tu t'essayes, tu sais.
Oui, oui. Comme je disais à un moment donné à quelqu'un, il disait, regarde, c'est juste des réseaux sociaux, hein, tu sais, ou tu sais, c'est juste ça, tu sais. T'es pas en train de faire quelque chose de...
D'illégal, là. Monde, là. Non, non, c'est ça.
Qui va s'en rendre compte? Peut-être personne.
Exactement, exactement. Puis tu sais, si tu le fais pour la bonne raison, puis encore une fois, ça revient avec, si tu as une bonne vision, puis une bonne mission aussi qui est inspirante, puis qui est vraiment alignée avec tes propres valeurs aussi, tout découle plus simplement. Puis tu sais, après ça, tu récoltes, tu deviens un peu un aimant du message que tu veux amener, genre, puis... Moi, c'est pour ça que je veux encourager les gens à avoir une présence sur les réseaux sociaux, à leur image aussi, là, parce que ça peut vraiment créer des beaux résultats.
Oui, oui, oui. Puis tu me disais, bon, il faut être prêt à l'échec, mais comment après ça on l'accueille, l'échec? Comment disons que tu te rends compte que t'as fait, tu te rends compte que ça n'a pas marché, qu'il y avait beaucoup de monde qui était derrière toi, puis que là tu te rends compte que ah, c'est peut-être pas la bonne affaire.
Mais ouais, très bonne question. Mais tu sais, je crois que c'est au comment tu l'accueilles. Mais tu sais, faut être encore une fois, faut regarder les résultats puis essayer de se mettre un peu des objectifs pour un peu enlever son objectif. Comment je pourrais dire?
Je pose la question, puis j'ai réfléchi en même temps, mais je pense que quand tu t'en vas, en fait, c'est toute une histoire d'équipe, hein, ouais. Aussi, là, d'une part, il faut pas que la personne, bon, qui s'en va dans ce projet-là, elle arrive du jour au lendemain avec un projet innovant, puis que finalement personne n'était au courant, et puis que là, tout d'un coup, tu sais, c'est
non, un processus. C'est clair.
Il y a une méthodologie. Ouais. Tout le monde embarque dans le même bateau.
Ouais.
Toutes les étapes doivent être justifiées pour arriver à un point et absolument. Que tout le monde est d'accord. Et après ça, s'il y a un échec, ben c'est pas sur la tête de quelqu'un. Il faut que ce soit de dire comme OK. Ça se peut, puis tu sais, on parle de côté humain puis tout ça. Il faut se rendre compte aussi qu'on est des humains puis que c'est pas la fin du monde de faire des erreurs.
Non, mais en fait, c'est ça. C'est que tu amènes des super bons points. Tu sais, si c'est tu communiques bien avec toute ton équipe, vraiment, exactement toutes les démarches qui ont été faites, puis que tu sais, il n'y a pas personne qui a été mise à la porte. Ça revient un peu à que tout le monde est égal, tout le monde a le droit de savoir, tu sais. Fait que ça, c'est un bon point. Mais aussi, un coup que tu comprends que ça fait partie du processus, tu l'embrasses un peu parce que tu es comme, ah, OK, mais au pire, je vais réessayer une autre manière, tu sais. C'est que dans cette mentalité-là, il n'y a pas de fin. La fin, tu vas l'avoir, ça va être le succès. Ça va être quand ça va bien découler, tu sais. Puis, tu sais, c'est cette détermination-là, je crois, qui est comme... si. Puis d'être à l'écoute aussi, ça se peut que des fois, faut pas être têtu non plus, puis être... de penser qu'on a vraiment raison. J'ai pas le mot, là, exact. Là.
Non, mais comme tu dis qu'on a tout le temps raison, qu'on est tout le temps...
Faut admettre ses torts, là,
Oui. Tu sais, fait que tout revient aussi à la communication.
Ouais, vraiment.
C'est s'assurer. Ben, comme tu disais au début, là, t'as dit à un moment donné, il faut bien établir c'est quoi notre mission, nos valeurs. Ça, c'est le principal, puis ça va aider à rassembler ton équipe autour de toi et faire en sorte que le monde se batte avec toi. Et puis après ça, tu développes ta méthodologie. Tu dis, regardez, ça c'est une méthodologie qui va plaire à tout le monde. On embarque là-dedans et là après ça, tu fonces.
Ouais.
Et c'est ça.
Exact. Puis tu y vas aussi à petite échelle. Tu sais, comme ça, ça réduit beaucoup le risque. Tu sais, ça, c'est une bonne leçon aussi que je veux que les gens se rappellent. Parce que c'est, tu sais, plus que tu y vas à petite échelle, ben, moins que ça va te prendre de temps à faire. Puis tu vas avoir une bonne réponse aussi que tu vas pouvoir t'aligner. Tu sais, des fois, on peut être surpris de la perspective du client par rapport à toi, ta perspective de ton produit. Puis quand tu le testes, ben, tu as toute la bonne réponse. Tu as toutes les réponses à tes questions.
Tu sais. Tu m'amènes de quoi, la petite échelle, tu vois? Moi, tout ce que je te parle depuis tout à l'heure, c'est des choses que j'applique, mais tu sais, je vois tout le temps sur le long terme, sur 3 ans, sur 4 ans, j'essaie d'embarquer le monde dans des gros projets, puis là, je me dis, ouais, c'est vrai, tu sais, tu commences petit à petit, tu développes aussi des relations, tu développes des choses avec le monde, fait que tu sais, si tu te mets, tu rencontres une date la première fois, tu es sur Tinder, tu rencontres la personne, tu essaies de la marier tout de suite, ça se passe pas comme ça.
Oh, ça risque d'avoir des petites surprises. Ouais, tellement, mais ça, c'est parce que même moi, tu sais, je crois que c'est un réflexe humain, c'est on veut le big thing tout de suite, tu sais, puis on le veut right now, tu sais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment, je crois, pour que ça fonctionne bien, tu sais, il y a tellement de bons exemples de compagnies que c'est exactement comme ça qu'ils ont réussi, puis qu'ils ont juste vraiment focus sur un core qui ont vraiment comme peaufiné, puis un coup que ça s'était fait, ben là, ils ont rajouté des couches, tu sais. Puis je crois que ça, c'est une bonne mentalité pour lorsque tu commences aussi, pour éviter de t'éparpiller, parce que ça peut tellement être facile.
Ouais. Ouf. J'en sais quelque chose. Mais, hey, merci beaucoup, Antoine. On va mettre fin à ce podcast-là, mais c'était vraiment super intéressant de jaser de ça avec toi. Puis j'espère que ça va aider un peu tous les entrepreneurs ou même les professionnels qui nous écoutent à prendre le temps puis à les aider dans leur réflexion sur par rapport à ça, par rapport à l'innovation. Donc, on va sûrement se reparler très bientôt. Donc, je te remercie beaucoup et à bientôt.
Eh bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Puis, on garde contact.
Si vous avez aimé le contenu de cet épisode, s'il vous plaît, faites-nous des commentaires sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et sinon aussi, envoyez-moi un message à nelson@baromag.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis en même temps de partager peut-être votre commentaire dans un prochain épisode. À bientôt! Ce balado est réalisé et animé par moi-même, Nelson Roberge. C'est une production de Baron Mag, un média pour promouvoir l'entrepreneuriat humain, éco-responsable, créatif et innovant. Le thème musical est une création de l'artiste Zonazi et ce balado est disponible sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud.